pourquoi ces événements se produisent aujourd'hui, en 2015, bientôt 2016. Et quand on regarde la paracha qui a précédé Charlie Hebdo et les mois qui ont précédé, c'était les mêmes parachas. C'était en janvier et les parachas étaient novembre-décembre sur Edom, Ézav, et avec toute la continuité, parce que là je suis dans le commencement, mais toute la continuité. Et là nous arrivons, 10 mois après, à cette paracha, mais après ce coup-ci, l'événement, et non avant l'événement. Et on se dit, est-ce qu'il y a un hasard dans le fait que le cycle de la paracha suit le cycle du temps de l'homme, dans le temps des nations? Il y a certainement quelque chose à comprendre, à approfondir. Alors, beaucoup d'entre nous même, j'ai entendu chez les chrétiens, les croyants, se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a seulement 5 ans, 3 ans, on attendait le réveil. On attendait. Il y a tellement de choses qui ont basculé en quelques années, qui se sont modifiées. Et tout à coup, le mariage pour tous. Et ceci, et tout se modifie en quelques années. Est-ce que Dieu a permis? Dieu seul sait. Mais en même temps, ce qui s'est produit doit nous amener à comprendre et à connaître quelle doit être notre réaction, mais aussi quel est notre rôle dans ces temps, dans ces moments précis. Il y a des réponses, comme je vous l'ai dit, dans toute la Bible, dans tout le Tanakh. Et tout ce qu'il faut pour la découvrir, cette réalité, eh bien, ce sont ceux, alors, on va dire comme ça, tout ce qu'il faut pour la découvrir, cette vérité, ce sont des yeux qui sachent voir. Soit vous voulez rester et malheureusement sous hypnose politique, ou de fond et de forme, dans certains prêches, dans certains discours qui se veulent optimistes, je veux bien. Bien sûr que l'optimisme et l'espérance font partie, mais qui en même temps nous aveuglent, parce que ne nous donnent pas de raison. Et ce que je suis en train de relever, c'est une chose fondamentale. Lorsque nous nous trouvons dans la réflexion de la pensée d'Israël, c'est parce que dans ces deux manières de voir, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. Soit nous voyons dans la dimension du physique, du palpable et de la compréhension humaine, dans l'analyse intellectuelle, humaine, rationnelle de l'événement, de ce qui se produit pour essayer de comprendre quelque chose qui pourrait aller au-delà, mais qui reste dans l'analyse. Et c'est une manière de voir. Nous pouvons voir les événements comme étant. Et ceci peut toucher beaucoup de gens. Et je mets quand même en garde quand on dit la France l'a cherchée, Dieu la juge. Peut-être, mais qui sommes-nous pour pouvoir dire ça, aller dire ça devant une victime, devant des parents qui ont perdu des enfants? Et tant que ça ne nous touche pas, on ne se sent pas concerné. Et en même temps, on peut se dire, mais dans cette dimension, c'est comme si nous avions qu'une vue extrêmement limitée sur la réalité des choses. Une vue limitée parce que on se dit, bon, la vie va reprendre. La vie, nous allons continuer de vivre et nous allons continuer de vivre comme on a toujours vécu. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose qui s'est produit. Autrement dit, beaucoup de Français ne pensent plus qu'ils peuvent vivre de la même façon qu'ils vivaient il y a un an. L'effet Charlie Hebdo n'a pas eu cet effet-là, mais l'effet Bataclan l'a eu. Et peut-être qu'il sera oublié. Donc il y a une manière de voir, même chez les croyants, qui lisent la Bible, qui s'interrogent et qui peuvent voir des choses d'une certaine manière. Et puis, il y a l'autre dimension, l'autre manière de voir, qui est une dimension dans une vue spirituelle, mais qui va déchiffrer les messages codés de la Torah et de la Bible, qui sont normalement inaccessibles à l'intelligence naturelle, mais qui viennent par la révélation de Dieu, où Dieu nous éclaire sur les mots, sur les choses qui se sont produites et qui sont écrites dans la Torah. Et comme on va le voir, à un moment donné, la question des âmes d'Ishmaël et d'Israël, Yaakov, va nous entraîner dans quelque chose d'extraordinaire. Parce que seule la révélation de ces paroles est claire. Mais nous pouvons bien sûr toujours avoir notre propre compréhension et nous dire, eh bien, je veux apprendre à me diriger par moi-même et de toute façon, j'ai assez de problèmes dans ma vie. Qu'est-ce que je m'occupe des problèmes des autres? Qu'est-ce que je vais m'occuper des problèmes de la nation? Et en plus, qu'est-ce que je vais me charger de problèmes spirituels et de prier pour des gens qui ont mérité? Parce qu'ils sont des pécheurs, parce que c'est des drogués, parce que c'est des alcoolos, parce que c'est des gens de mauvaise vie. Ah! Et on peut s'en arrêter là. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire comment Dieu va juger une nation. Mais ce que Dieu nous dit, avant de juger une nation, c'est « As-tu prié pour son salut ? » Qu'as-tu fait ? As-tu fait comme Abraham ? T'es-tu opposé à la destruction de la nation ? À ce qui allait arriver dans la nation ? Quand, il y a plusieurs années en arrière, nous avions dit ici, clairement, alors que tout le monde était dans l'huile et je ne sais pas quoi, les paillettes là, et qu'on va dans le contresens, et qu'on dit attention au temps de la fin, au temps qui arrive, se préparer dans les temps qui viennent, se préparer dans les temps qui sont en train d'arriver. Personne ne voyait, personne, tout le monde voyait autre chose. Et quelque part, les autres qui mettaient en garde étaient comme relégués, fous. Oh, c'est pas possible, oh, c'est trop dur, mais Dieu ne voit pas comme ça et tout. Et tout à coup, j'espère que la vue revient. Parce que dans ces moments-là, nous comprenons que nous sommes à contre-courant, mais ça explique bien la manière de voir. Nous pouvons voir ce que nous voulons voir dans notre espérance et nous déroger à nos responsabilités. Quand Dieu va détruire Sodome et Gomorre, ou même Jérusalem, il y a toujours un avertissement préalable qui est donné à ceux qui gardent la ville. Ça peut mettre des années en avance. Parfois, il peut s'écouler 10 ans, 20 ans, 30 ans avant que l'événement annoncé ne se produise. Il y a un temps qui peut être appelé un temps d'action pour amener à la teshuva, pour ramener au bon sens l'être humain et le ramener de ses mauvaises voies. Et en même temps, nous pouvons dire, mais si Dieu nous a placés là, c'est aussi parce qu'il fallait prévenir, avertir. Mais qui entend? Qui a entendu ce message d'Israël? Le message d'Israël qui a été diffusé, qui a été largement critiqué, rejeté, parce que trop juif, pas chrétien, pas assez spirituel, pas assez charismatique, pas assez euphorisant, mais qui a suscité beaucoup de réactions, pas toujours positives. Et aujourd'hui, ce ne sont plus que les juifs qui sont touchés, c'est tout le monde. Et bientôt, ceux du dimanche. Les dimanches, il ne va pas manquer. Hein. Le dimanche, parce qu'ils sont partis dans la guerre des croisades. Et les croisades, ce n'est pas Israël qui l'a mené, la croisade. Alors, historiquement parlant, la France avec Godefroy de Bouillon et les autres là, avec le cœur de lion. Manger plus qu'un Mambert. Bah ouais. C'était pas écrit. Ce sont eux qui ont amené une destruction. Et aujourd'hui, pour ceux qui pensent qu'il y a l'oubli de l'histoire, l'amnésie de l'histoire dans la blessure des peuples et des nations, eh bien ils se trompent. Car il y a une règle qui existe dans nos pays, c'est n'oublie pas. C'est garde toujours en mémoire le mal qui t'a été fait. Et c'est pourquoi la Torah nous invite déjà à nous rappeler d'Amalek. Ouais. Pas de se rappeler du personnage Amalek, mais le mal qu'Amalek, jusqu'à notre génération, amène dans sa destruction antisémite. De tout ce que ça génère, de génération en génération. Et nous voyons là aujourd'hui que, quelque part, alors que nous aurions dû, dans ces 10, 15, 20, 30 dernières années, être davantage dans l'écoute, la vigilance, l'intercession de la nation, dans la réaction, il y a eu l'indifférence, le laisser-faire. Et après, on dit, mais pourquoi ça s'est produit ? Et tout à coup, tout le monde veut se mobiliser parce qu'on se sent touché dans la France. Mais on sait que ça ira plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis très basique. Parce que cette étude, elle va être très longue. Et je ne vais pas la donner comme ça à chaque Shabbat. Mais elle va devenir un cours de yeshiva. Où on va aller là, dans les profondeurs des mots, des lettres, des significations hébraïques, des secrets, des tournures de phrases, mais qui vont nous amener dans le dévoilement du mystère de la fin, le mystère du Mashiach. Car tout est fait pour ce but. Mais ce but, il est lié, comme l'a dit Séverin tout à l'heure, à cette rencontre entre Yaakov et non pas Ésav dans un premier temps, mais entre Yaakov et Dieu, dans un combat, dans une nuit. Et elle regroupe toutes les guerres et tous les exils de l'histoire. Elle regroupe également toutes les souffrances et l'angoisse qui vont être vécues. Parce que Ésav, il faut bien le dire, à ce moment-là, n'est pas Édom. Et Yaakov n'est pas Israël. Là, nous marquons le premier point d'interrogation profond. Ésav s'appelle toujours Ésav, donc Ésaü, et Yaakov est toujours Yaakov. Dans ce combat, c'est comme ça. Et après ce combat, naît Israël. Et quand la réconciliation, si on peut dire ainsi, une embrassade avec Ésav et Israël, pas Ésav et Yaakov, Ésav, Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est la différence? C'est la même personne. Y a-t-il vraiment quelque chose à analyser? Ésav se retire, laisse la place à Israël dans les terres, et là il devient Édom. Et que représente Édom? Il faut comprendre toute cette histoire qui est ambiguë. Mais elle nous amène sur des sujets tellement intéressants et qui nous demandent aussi d'intensifier la tefila derrière, la prière. Pas simplement la nourriture intellectuelle, voire spirituelle, mais également d'aller dans la profondeur, dans la prière. Et de dire, mais est-ce que nous n'avons pas une responsabilité de prier pour les nations, non pas qu'elles se convertissent à Dieu pour aller mieux? Beaucoup ont cru ça. Mais notre rôle, c'est d'être une lumière dans les ténèbres. Notre rôle aurait dû être davantage dans l'action et pas simplement dans quelque chose où on est indifférent à tout ce qui se passe sans entendre la voix de l'Éternel. Alors bien sûr que tout le monde n'est pas concerné, je veux bien. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de choses troublantes et qui nous troublent parce que spirituellement, la France est très bas. Que l'islam est quand même devenu la deuxième religion de France. J'ai rien contre l'islam. J'ai rien contre des musulmans. Contre des hommes, je n'ai rien. L'idéologie est dangereuse. Et il ne faut pas se tromper. C'est, même si on peut toujours discuter, dans le salafisme, que peut se trouver davantage le danger. Mais il y a beaucoup de choses liées à l'histoire. Parce qu'Edom est lié. Edom est lié à la France. Et Edom a une grande signification. Alors, le premier point que je relève, mais que je ne développe pas volontairement, c'est simplement parce qu'il nous faut avoir en arrière-plan ce qui va être plus tard. Et que les noms, la mention des noms n'est pas hasardeuse dans la Torah. Et en même temps, la paracha d'aujourd'hui nous révèle ce que signifie la rencontre entre Ésav et Israël. Ésav qui va devenir Édom, hein, donc. Alors qu'il nous faut simplement avoir une petite analyse rapide. Il y a 20 ans qui se sont écoulés entre la séparation de ces deux frères. En 20 ans, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses peuvent se produire. Donc, Yaakov quitte et il y a tout un tas de parachas. N'oublions pas que ces 20 ans sont devenus pour nous aujourd'hui les parachas qui nous amènent à cette histoire, à cette rencontre entre Yaakov qui devient Israël. Parce qu'avant d'en arriver là, il y a tout le cheminement. Et ce cheminement va durer 20 ans. 20 ans, qu'on va appeler l'exil de Yaakov. Et le moment de ces retrouvailles est très complexe, parce que Yaakov a peur, parce que Yaakov est dans la crainte de cette rencontre. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est intéressant parce qu'il nous faut savoir qu'est-ce qu'il dit à Ésav. Imlavan garti. Imlavan garti. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai séjourné chez Lavan. En quoi Ésav est intéressé de savoir que celui qui mérite la mort pour lui, celui qui lui a volé un droit d'existence, d'une dimension spirituelle éternelle, en quoi peut-il se sentir concerné que cet homme-là, ce Yaakov, a séjourné 20 ans chez Laban? Le problème, c'est qu'il dit, dans la réalité, quand on le traduit bien de l'hébreu, il ne dit pas chez Laban, mais j'ai séjourné avec Laban. Et là, le relief change. Alors, je me suis dit, mais il est vrai que normalement, on séjourne chez quelqu'un. On ne séjourne pas avec quelqu'un. Même si on est avec quelqu'un, on séjourne quand même chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, j'ai séjourné avec Lavanne? Ici, ce terme, le terme qui nous intéresse, c'est Garti. Parce qu'il signifie habiter. Mais il veut dire également dans sa racine peur. Et Yaakov, avant de devenir Israël, avant d'avoir ce combat, dans ce cheminement de la rencontre, il a peur. Il a peur du futur, il a peur de l'avenir, il a peur de ce qui doit advenir. Il a effectivement le poids, la responsabilité de la promesse, le droit d'aînesse. La postérité du Mashiach, il porte en lui les dimensions futures de la rédemption. Il porte l'histoire de tous ceux qui naîtront après lui, qui formeront le peuple mais qui permettra le règne du Messie. Il est conscient que dans ce cheminement, il y a un enjeu. Ésav vient à sa rencontre pour le détruire. Et dans sa haine, dans sa blessure, il est clair et évident que ce n'est pas simplement une guerre entre deux hommes. Parce que le terme qui a été utilisé dans Bereshit 32, lorsque, à la fin du combat, quand le nom est donné, « parce que tu as combattu des hommes, mais aussi le divin. » Tu n'as pas combattu que seulement dans la dimension d'un droit territorial, pour une existence de 20, 30 ou 40 ans, mais tu as aussi combattu le divin. Et on se dit, mais là, on entre dans un autre niveau de compréhension. Comment puis-je combattre le divin? Comment le divin peut-il me combattre dans ma dimension d'existence limitée, dans quelque chose qui, quelque part, n'a pas de compréhension palpable? Et il dit, mais parce que tu as combattu et tu as été vainqueur, alors ton nom ne sera plus Yaakov. Autrement dit, celui qui était chez Laban. Ton nom ne sera plus l'identité de Lavan, de celui qui a séjourné hors de la terre, mais Israël, celui qui possédera la terre. Mais si on va dans l'hébreu profond, il dit la terre que possédera le Mashiach. Et il est en train de dire la terre, le lieu, l'endroit du règne du Messie qui donnera la délivrance finale, mais qui fera habiter la paix, va tout modifier. Et Garty va plus loin, parce que non seulement il veut dire habiter, mais on va le voir un peu plus loin, qu'il nous amène beaucoup plus loin, ce terme. Yaakov, pour devenir Israël, doit passer par le Yabok. Alors l'année dernière, j'avais fait une étude très approfondie sur Yabok, hein, pour ceux qui se souviennent, comme la mémoire est courte, mais ça ne fait rien. On l'a dit. C'est de réaliser, finalement maintenant, qu'il devait passer par un moment de transition entre son passé et son futur. Afin de devenir, il fallait qu'il affronte son présent, mais qui en réalité n'était que l'identité de son passé. Alors, il faut savoir que Yaakov, pour devenir Israël, doit quitter Lavan. Mais quand il quitte Lavan, est-ce que c'est pour aller dans n'importe quelle contrée? Pourquoi va-t-il dans la contrée là où il y a le risque de mort? Là où justement, on va vouloir le détruire. Il ne choisit pas un autre lieu. Pourtant, il y a de la place. Il y a d'autres endroits. De chez Lavan, il aurait pu partir au nord, il aurait pu partir à l'ouest, il aurait pu partir n'importe où. Il aurait pu, avec tout ce qu'il avait accumulé, comme bien, comme richesse, s'établir dans une contrée et avoir la paix. Et se dire, eh bien, je ne veux pas de conflit avec quiconque. Je m'installe là, je me développe là, Ésav est là-bas, on s'oublie, on n'a plus de relations, on n'a plus de vécu ensemble, et puis tout va bien. Non? Et moi, ça m'a frappé. Parce qu'il dit, j'étais avec Lavan, mais je ne veux plus être avec Lavan. Ne plus être avec Lavan veut dire que maintenant, je veux devenir ce dont pourquoi j'ai été créé. Pas seulement pourquoi je suis né, mais ce dont pourquoi j'ai été créé. Car maintenant, l'humanité entière va se jouer dans ces quelques années, dans ces quelques mois. Et tout à coup, nous voyons une question importante, parce que il y a ce petit mystère où Yaakov se dirige naturellement vers la terre qu'il a quittée. Et on peut dire, ben, il savait où il allait. Il n'est pas parti sans savoir où il allait. Mais il a voulu retrouver la terre qu'il avait quittée. Alors, dans un deuxième temps, on peut toujours orienter et comprendre que ce temps qui est vécu par rapport à la vanne est très important, parce qu'il marque le temps de l'exil. Il marque le temps de l'exil. L'exil d'Édom, comme il nous est dit. Car Ésav, c'est Édom. Et lorsque nous voulons aller un peu plus loin, nous nous disons, mais que représente finalement Édom dans l'interprétation d'Israël? Est-ce que Édom, c'est simplement une nation qui a disparu ou qui existe encore aujourd'hui? Mais sous quelle forme elle existe? Alors, il est clair et évident que dans la pensée d'Israël, dans le judaïsme, c'est identifié à l'empire de Rome. L'empire de Rome. Vous savez que Daniel a 4 empires. Et qu'il y a un des empires qui a particulièrement meurtri Israël, c'est l'empire romain. Mais l'empire romain, c'est aussi sa spiritualité. C'est également quelque chose qui nous introduit dans la lourdeur historique, la souffrance de l'histoire. Car, malheureusement, on peut dire que Édom, c'est l'Occident chrétien. C'est ce qu'il représente, bibliquement. Et il signifie que là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à quelque chose où, avant d'entrer dans ce que je voudrais, je vais peut-être développer ça. Il nous faut le comprendre sous un angle très important par rapport à la théologie de substitution. Rome a prétendu devenir le nouvel Israël. A pris l'héritage d'Israël et a mis en exil Israël dans toutes les nations pendant 2000 ans. 20 ans, 2000 ans. Faites un calcul. Pendant 2000 ans, nous avons été avec les nations. Nous avons été avec Laban. Qu'est-ce qu'a représenté notre foi juive dans les nations? Rien. À chaque fois, elle était comme détruite. À chaque fois, elle a été comme méprisée. À chaque fois, nous étions inférieurs. À chaque fois, nous n'avions aucune signification dans les nations. Nous avons travaillé dans les nations, nous avons contribué à un certain nombre de choses dans les nations. Mais rien. Pour vous donner une idée encore plus de la complexité qui arrivera, c'est de voir que le retour, après ces 2000 ans d'exil sur la terre d'Israël, tout à coup Israël réexiste. Mais paradoxe des paradoxes, chose inattendue, chose absolument bouleversante, tout à coup la théologie de la substitution est ébranlée. Et que la plupart ne veulent plus d'une foi païenne, ancrée dans l'idolâtrie, reviennent, pas seulement à des racines intellectuelles et à des racines seulement bibliques et d'enseignement, mais à une pratique juive. Il y a quelque chose qu'Ésav a oublié. C'est la puissance de l'appel. la puissance de l'élection. Et quand, à ce moment-là, Israël a pris ses 2000 ans dans la douleur et la souffrance, dépouillé après la Shoah, ne représente pas grand-chose. La moitié de toute sa population mondiale est décimée, 6 millions de juifs en moins. Il en reste quoi? 6, 7 millions. Et avec le temps, nous voyons que là maintenant, commence à se développer et on est en train d'y arriver à voir que, et heureusement je dirais, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'attitude de Rome. C'est ses retrouvailles avec Ésav. L'attitude de Rome qui commence à reconnaître celui qui l'a éjecté, qui l'a mis en exil par la haine qui n'est autre chose que l'antisémitisme. Alors, on va lire un passage dans Béréchit et on va en lire après un autre qui va être encore plus explicite. Dans Béréchit 31, dans Béréchit 31 et les versets à partir du verset 1. Or, il fut instruit des propos des fils de Laban qui disaient: Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père. C'est des biens de notre père qu'il a créé toute cette opulence. Jacob remarqua que la physionomie de Laban n'était plus à son égard comme précédemment. Et l'Éternel dit à Jacob, écoutez bien, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, et là je serai avec toi. C'est à partir du moment où tu reviens, que tu retournes dans le pays natal, que je serai avec toi. Ce qui veut dire que s'il ne retourne pas au pays natal, Dieu n'est pas. Reviens vers le pays de tes pères et ta famille, et je serai avec toi. C'est ça littéralement qu'il veut dire. Et là, nous découvrons un truc extraordinaire. Parce que ce mouvement qui est en train de commencer depuis un certain nombre d'années, il donne tout le sens de la Teshuva. La Teshuva qui fait que la grâce de Dieu revient, que Dieu va exercer une puissance que l'homme ne peut posséder, c'est celle du pardon de la nation. Et personne ne détient un pouvoir comme celui-ci. C'est si Dieu décide de pardonner que tout se rétablit. Alors, la Teshuva qui prend un sens, mais ce qui est particulier dans ce « Je serai avec toi » sur le chemin du retour, et tout est là. Je me suis arrêté là. Dans ma réflexion, et j'ai dit, c'est là mon point de départ de toute l'étude. Parce que c'est dans ce mot, Gartier, comme on l'a vu, qu'il y a l'expression guerre, l'exil, mais aussi l'étranger. Et dans le chemin du retour, il y a une teshuva qui se fait. Une teshuva qui est profonde, qui est extraordinaire. Alors, on est tous quelque part des exilés spirituels du Gan Eden, liés à la faute. Mais en même temps, il nous faut savoir aujourd'hui chez qui on veut séjourner. Est-ce qu'on va séjourner avec la vanne dans tout ce qui se fait dans l'indifférence la plus totale, en disant tant que ça touche les juifs, on ne bouge pas, on ne va pas dans les rues, on ne manifeste pas, on ne va pas dans les rencontres. Et beaucoup ici n'ont jamais participé. Mais le jour où toi tu es concerné, tu aimerais que tout le monde vienne. Et là, il faut comprendre le sens profond du combat. Alors, être un exilé et un étranger n'est jamais rigolo, parce qu'on n'est personne. On existe sans être, sans appartenir profondément, malgré tous les efforts que l'on peut faire. Il y en a, je sais, qui, par honte de leur couleur de peau, ont voulu devenir blancs avec des médicaments, machin, pour essayer d'être identifiés, pour montrer qu'ils veulent tellement appartenir, qu'ils sont tellement intégrés. Et pourtant, les autres les considèrent toujours comme non intégrés. C'était le cas du Jackson. Il y aurait entre une période et une autre, oh là là, méconnaissable le gars. Parce qu'il avait honte. Et en même temps, on se dit, mais il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre, c'est que nous sommes tous, à un niveau ou à un autre, dans notre cheminement, dans notre marche avec Dieu, un exilé. Mais il y a un retour. Ce retour, c'est vrai, il peut se faire déjà par le biais de la dénonciation d'une théologie de substitution. Mais est-ce suffisant pour une vraie teshuva? La réponse est non. Elle doit aller plus loin. Elle doit approfondir cette dimension. Et elle doit nous amener à quelque chose qui est plus grand dans la compréhension. Parce qu'elle concerne le règne du Messie maintenant. Et ceci veut dire que oui, il y a quelque chose où nous avons tous à apprendre de la part de l'Éternel une dimension. Alors, juste parce que le temps passe et que je suis très très loin de développer, mais je voudrais vous dire aujourd'hui que tu l'appelles Ecclésia, Église, ce que tu veux, synagogue et autres, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que le retour en arrière n'est plus possible et que quelque chose s'est amorcé entre les Juifs, les croyants qui reviennent à plus que leurs racines à l'identité d'Israël, est en train de modifier, de changer complètement le peuple juif lui aussi, et de le bouleverser dans son intériorité. Et qu'il y a quelque chose qui est en train de remettre en question un certain nombre de points et de domaines dans l'ecclésia d'aujourd'hui. Parce que inévitablement, nous commençons à regarder l'histoire en face, mais dans les deux côtés. Pas simplement comme quelqu'un qui a été destitué du plan et de l'onction et de l'appel de Dieu, mais comme quelqu'un qui se restaure dans son onction et son appel, qui retrouve sa place. Je serai avec toi. Et pour donner une note plus personnalisée, vous savez que aujourd'hui, il y a des grands combats parce que les gens disent toujours qu'ils souffrent de tout. Mais quel est le niveau de souffrance? Est-ce que tu souffres seulement parce que tu as une dimension difficile de vie dans le physique, dans le relationnel physique? Parce que tu ne trouves pas une place, parce que tu te différencies ou on te différencie? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui fait que il y a une frustration et un problème qui te met à part? Façon de voir. Mais également, pourquoi, lorsque tu es dans cette souffrance, tu ne réalises pas également l'autre niveau de ta souffrance qui est morale. Souffrance morale qui peut toucher beaucoup de domaines de la vie, de la personnalité, de l'identité, dans son existence, dans son relationnel avec les autres, dans ses brisures, dans ses ruptures, parce que la vie est faite de brisures et de ruptures. Elle est faite de trahison, elle est faite de changement du comportement de l'autre. On peut, comme Ésaü et Jacob, grandir ensemble et devenir les pires ennemis. On peut avoir pratiquement le même sens des choses et devenir ce qu'il y a de pire et de plus éloigné. Et ça, ce sont aussi l'une des choses et l'un des domaines dont on parle peu aujourd'hui. Ce sont les souffrances familiales, les souffrances conjugales, les souffrances qui sont liés justement parce que il y a quelque chose qui s'est mis en rupture avec Dieu et qui a fait un exil moral, spirituel. Et que Le fait de s'être éloigné de la Torah et des commandements divins, d'avoir commencé à suivre le n'importe quoi, d'avoir commencé à suivre des hommes qui enchantent, qui sont brillants, des hommes et des femmes qui sont tout simplement séducteurs, ou alors des enseignements qui deviennent pernicieux, light, qui n'ont plus de profondeur, qui n'ont plus de sens et de message réel, où il n'y a plus de teshuva, où il n'y a plus la notion de la crainte et de la sainteté de Dieu, parce qu'elle a été ôtée. Et alors, on essaye de trouver un sens à beaucoup de choses. Et parce que la teshuva a été négligée, parce que les lois de pureté dans le mariage biblique, écrites dans la Bible, ne sont quasiment jamais enseignées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des destructions familiales. C'est pas seulement des blessures de couple, c'est des ruptures familiales, mais des ruptures profondes qui ont ôté tout relationnel. Et ça conduit à quoi? À ce qui détruit, à des divorces. Ça conduit à des enfants qui deviennent des drogués, des enfants qui deviennent des délinquants. Parce que même le fait de s'être écarté des enseignements de la Torah sur l'éducation des enfants, sur le fait de s'occuper des enfants, aujourd'hui, le résultat de tout ce qui se passe, c'est la démission des pères. Mais également, dans nombre d'assemblées, il y a des problèmes qui se posent. Aujourd'hui, vous faites un cours sur les couples, vous faites quelque chose pour prier pour les couples ou je ne sais pas quoi, vous avez tout le monde qui vient. Tout le monde vient. Tout le monde. Et ce ne sont pas seulement des démons qu'il faut chasser là. Hein? Ben, les démons, hein, c'est quoi? C'est les blessures qu'il faut guérir. Et les blessures, c'est l'histoire. Les blessures sont dans l'histoire. Elles ne sont pas hors de l'histoire du vécu. Mais elles amènent justement quelque chose qui nous éloigne de l'autre. Et si nous voulons être concrets, le fait que les couples se restaurent, que si on revient à la vraie Torah, qu'on sort de ce qui a dévié, il y a quelque chose où Dieu va dire, si tu fais le retour, si tu retournes dans le lieu que tu as quitté, alors là, je serai avec toi. Et je serai avec toi et ta famille, mais aussi dans le futur. Je serai avec toi, mais aussi avec la génération suivante. Parce qu'elle aura été enseignée, celle-là. Parce que celle-là, elle aura reçu la direction. Et elle ne sera pas abandonnée. Aujourd'hui, nous disons dans les banlieues, personne n'a voulu aller. Ce sont des zones de non-droit. Pourquoi? Pourquoi? Même la police a peur, les pompiers ont peur, les médecins ont peur. Et les Kalachnikovs, elles sont où? Là-bas. Et les trafics, ils sont où? Là-bas. La provoque, elle est où? Là-bas. Mais pourquoi? Parce que les parents ont démissionné. Mais également dans toutes les kehilotes, où est l'éducation dans la relation du mariage. Il y a des choses qui ont été abandonnées, mais que la Torah n'a jamais abandonnées, que le peuple juif n'a jamais abandonnées, qu'il garde encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut divorcer très facilement. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, nous ne pouvons pas l'éviter. Comme Moshe. Il a divorcé de Séphora. C'est là qu'est né le divorce. Parce qu'il y a divergence d'appel. Mais en même temps, il nous faut construire les fondements solides, les piliers de la société. Alors, Ce que je voulais dire, c'est parce que beaucoup de gens parlent au niveau des ruptures, et les ruptures sont familiales. Et vous savez, vous grandissez avec la blessure de l'histoire. D'un divorce, vous ne vous en remettez pas. Combien de gens se sont détruits dans le futur à cause d'un divorce? Combien de gens se sont détruits par l'abandon du père, par l'abandon de la mère, par le fait d'avoir été complètement mal aimé, et ceci et cela. La racine, la blessure de l'histoire, elle est dans le relationnel familial. Après, elle prend des expressions différentes. Elle se manifeste différemment. Après, il y a les autres niveaux, au niveau de la personnalité, qui sont les troubles, les psychoses et les névroses, mais qui ont aussi des racines dans les gènes. Il y a des troubles comportementaux. Les boulimiques, anorexies, les comportementaux, pas les porte-manteaux. Les maladies les plus terribles à guérir aujourd'hui sont les troubles alimentaires. Sont toutes sortes de choses parce qu'elles sont liées à la mort, à une destruction de soi. Ce n'est pas le trouble en lui-même qui est dangereux, c'est le fait que il est généré par la mort. Et que c'est d'arriver à un état de mort, comme dans une mort naturelle. Et personne ne peut saisir, comprendre la souffrance intérieure de l'être qui ne peut pas se guérir et se délivrer de ça. Parce qu'il vient d'un conflit, et d'un conflit non réglé, d'un conflit qui ne trouve pas de solution, qui n'arrive pas à pénétrer. Et le troisième niveau, celui que rarement les gens atteignent, c'est le niveau de la souffrance spirituelle dans une nation. Nous souffrons pour toutes les choses, sauf dans ce qui concerne Dieu dans une nation. Nous ne souffrons pas parce qu'il y a de l'injustice et du mal dans la nation. Nous ne sont même plus prêts, et beaucoup ne sont même plus prêts aujourd'hui à vraiment prier dans une teshuva, à payer le prix, à se dire, mais il faut restaurer la sainteté, il faut restaurer la Torah, il faut restaurer un système de vie, il faut restaurer un ensemble de choses. Et cette souffrance spirituelle, c'est celle de Noé dans sa génération perverse, c'est de ramener une identité qui va se confronter à l'identité du mal, de la destruction. Aujourd'hui, cette identité du terrorisme, cette identité de la mort qui frappe n'importe qui, n'importe où, qui n'a pas, qui ne cherche pas un nom, ni de couleur. Ça peut frapper un Brésilien, comme ça peut frapper un Français, comme ça peut frapper un Mexicain. Et on se dit, mais quelle est l'arme? Je dirais que l'arme, c'est celle où il y a une blessure chez eux de l'histoire que l'Occident ne connaît pas. C'est celle des croisades. Voyez où nous amène Esaü. Et là, je ne fais même pas, j'effleure même pas. Je me rapproche. La blessure d'Esaü, elle est dans les croisades pour le peuple chrétien. Est-ce qu'il y a eu, de la part du monde chrétien, une demande de pardon à Ishmaël? Voyez, quand on commence à réfléchir, la déclaration, depuis des années, de Daesh, d'Al-Qaïda et autres, c'est tout ce qui s'est passé dans les croisades. Les croisades, c'est vieux, mes amis. C'est dans les années 1000, 1200. Oui, il y a ça, mais ça a duré jusqu'à longtemps parce qu'il y a eu Rachi qui. Oui?
1100.
1100. 1100, mais ça a été jusqu'à 1200. Et donc, il faut savoir que ils ont voulu quoi? Regardez bien l'histoire. Garder en possession les lieux dits saints. Les lieux dits saints, liés à l'histoire et à la terre d'Israël. Et qu'ils ont considéré que ceux qui avaient épousé la religion de l'islam après le VIe siècle, qui était très différente à cette époque de notre époque, mais qui a très très vite, elle aussi, pris des branches différentes, comme dans le christianisme, il y a eu un ensemble de branches différentes. Il n'y a pas eu que un bon christianisme, vous avez toutes sortes, les momistes, et vous avez les jésuites, et vous avez les augustins, et vous avez mais tellement. Et il ne faut pas oublier que François appartient à qui ? Aux jésuites. Lisez l'histoire des jésuites. Dans l'histoire, il va pas. Pourquoi ? Il va pas renier. Mais ça, c'est une indication d'étude, de recherche. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, il nous faut revenir justement à cette blessure. Israël, d'accord, c'est la théologie de la substitution qui a amené l'antisémitisme et l'exil, et que ce « je serai avec toi », ce retour, amène inévitablement le réveil d'Ismaël. Il réveille Ismaël de sa douleur. Et de sa douleur, Ismaël crie son injustice. Et au travers de tous les événements, on oublie que la douleur spirituelle est la pire meurtrière de toutes. Parce qu'elle va aller au-delà des générations. Elle va s'implanter dans la pensée comme étant quelque chose d'ignoble. Et que ça touche tout un peuple, une nation. Ça ne touche pas qu'un seul individu. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église a oublié de dire pardon à Ismaël. Et il n'y a qu'à regarder parfois le regard haineux que certains peuvent avoir des Arabes. Mais il est le frère d'Israël. Il est le frère d'Ismaël, d'Israël. Et qu'il est important d'amener la réconciliation. Ce n'est pas simplement la relation, dialogue avec les Juifs et les Arabes, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se produire va débloquer ça. Pas seulement Juifs et Chrétiens dans une racine avec des machins, mais Juifs, Chrétiens, Arabes et Musulmans. Parce qu'il y a quelque chose qui a échappé au contrôle spirituel des nations. En éliminant Israël, vous avez éliminé la compréhension d'Ismaël dans les temps de la fin, dans le temps du Hevelé Mashiach. Parce que le jour où on va aborder ce sujet, le jour où on va aborder le mystère d'Ismaël, le jour où on va vraiment rentrer dans la profondeur des lettres, dans le date, dans le secret, là, on va découvrir une autre dimension. Et c'est pourquoi, je vous le dis aujourd'hui, ce qui s'est produit doit susciter une réaction non de haine de tous les musulmans. Et je le dis haut et fort, moi, juif, dont le père a été assassiné par un sniper quand j'avais 18 ans, 18 mois. Mais en même temps, Dieu m'a guéri, m'a libéré aussi de ma haine. Et je crois que il y a quelque chose où il faut une avancée. Le christianisme aujourd'hui, la manière de vivre dans les églises, replier trop sur elle-même le social, machin, c'est bien. Mais elle a oublié la dimension spirituelle, dont les causes ne se trouve pas seulement dans la Tzedaka, qui est fondamentale et importante. Et ça, j'ai rien à dire. Mais aujourd'hui, on est dans une période qui a élevé le niveau. Et qu'il nous faut aller à la rencontre, dans le dialogue, dans le partage avec les frères arabes, pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils sont comme ça. Pas en avoir peur, mais aller. Et quand, il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, on était avec Nadav, avec Abdel et avec Dimi, on a été à la synagogue de Ris Orangis, on a rencontré le Rav Sarfati, très engagé dans la rencontre et le dialogue avec Juifs et Arabes. Et on a eu un contact, hein, on peut le dire comme ça, un Nadav, il est où, Dimi, je sais pas où il est. Mais on a eu un contact avec le Rav, alors intrigué parce que dès qu'il voit Messianique, lui, clignotant. On a été carrément, hein. Il nous a regardé un peu bizarrement, on vient d'une autre planète. Mais j'aime bien. Puis après, au bout d'un moment, on a parlé par rapport à ces temps, à ce qui se vit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en tant qu'arabe, en tant que musulman, en tant que juif, en tant que chrétien, en tant qu'hébreu messianique? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que on doit laisser aller les choses comme ça, à la dérive, et se replier dans un esprit de peur en se mettant contre nous, et que quelque part on est les plus forts, on est les triomphalistes en priant au nom de Jésus et on chasse tous les démons, mais ça n'a pas évité Bataclan. La situation a empiré. Elle a passé à un cran au-dessus. Et que je suis convaincu que dans ce qui se fait, parce que il y a une orientation maintenant dans le 11e, dans une décision qui a été prise où on va devenir actif avec cette relation avec le Rav Sarfati, où il y a tout un tas de choses que l'on peut faire dans le 11e, dans ce relationnel. Parce qu'ici, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes, des hindouistes, il y a des magiciens, des hypnotiseurs. Vous avez... Ouais, vous avez tout. Mais aujourd'hui, il y a un chemin à tracer. Les Arabes ont besoin d'entendre dire Ishmaël. Je vais vous le dire comment Agar manifeste sa souffrance. C'est que Ishmaël a perdu l'amour d'un père. Et il ne s'est jamais remis de l'amour d'Abraham. Abraham aimait Ishmaël. Il ne faut pas comprendre les choses comme étant de la haine, mais comme étant quelque chose qui n'était plus vivable dans la provoque. Et le fait de ne pas avoir eu ou d'avoir été privé de cette relation avec son père, car Agar était une princesse, ce n'était pas une analphabète, amène énormément de souffrance. Moi, je sais que je n'ai pas eu de père, je sais ce que c'est le manque d'un père. Et aujourd'hui, je pourrais dire, même en ayant des enfants, je commence seulement à savoir qu'est-ce que c'est être un père. Parce que quand on a été privé, il y a un manque. Et ce manque, il s'est mis et transmis de génération en génération dans Ishmaël, pas chez Agar, mais dans Ishmaël. Même s'il y a eu là à nouveau avec Yitzhak une réconciliation, il y a quand même une blessure spirituelle qui est liée aux croisades et qui maintenant, il faut le comprendre, eux veulent détruire l'Occident chrétien de l'esprit des croisades. Ça veut dire qu'ils ont un compte à régler dans un rendez-vous de l'histoire que tout le monde a oublié. Et qu'il est utile aujourd'hui de se rappeler. Or, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il est quand même avancé. Il est certain que là, on n'a même pas fait une intro. Mais dès qu'on pourra, dès que les travaux permettront, dès qu'on pourra étudier, je vous promets que c'est d'une profondeur, d'un niveau incroyable. Parce qu'il va nous faire toucher vraiment le mystère qui va se dévoiler. Mais aussi, il nous responsabilise. Et il doit nous responsabiliser. C'est bien d'être un croyant à confession intellectuelle, verbale, des croyances, des je crois, des poldis. Ça, c'est très bien. Mais dans les temps actuels, c'est absolument pas suffisant. Et qu'il est impératif de s'engager plus. Moi, je sais que chaque fois qu'il y a le mépris d'un arabe, même dans la Keïla, la blessure s'ouvre. Et chaque fois qu'il y a l'amour, ou d'un juif ou d'un non-juif, ça guérit. À l'intérieur, déjà, il faut régler le problème, et je l'avais dit il y a 2 semaines, je crois. Mais j'aimerais dire, il n'y a pas de race et de couleur dans les histoires générationnelles. Il y a certains qui ont vécu le drame de l'esclavage et de l'esclavagisme et des colons et de tout ce que cela génère. On est tout à fait d'accord. J'ai perdu mon père à cause de la colonisation française, parce que l'Algérie a voulu devenir indépendante et libre. Et il faut savoir que, quelle que soit ta race, ta couleur, ton origine, elle est liée à une histoire, une blessure qui donne des complexes. Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout mélanger, mais dans une Kehila, tout se mélange. Et qu'il est temps de passer par-dessus un certain nombre de choses qui sont liées au complexe et qui sont du racisme. Mais le racisme va dans les deux sens. Et moi, je n'ai pas de tabou, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de peur. Je dis et je dénonce que le racisme est autant blanc que noir. Il est dalmatien, si vous préférez. Faut aussi le dire. Faut le dire. Il y en a qui sont complexés, qui vivent qu'en clan entre eux. Et on a l'impression que on se met en par couleur. Alors ça, je dis stop. C'est ça qui amène les blessures et la mort dans une assemblée. C'est le fait que l'autre n'est jamais rencontré, n'est jamais invité, n'est jamais intégré, mais que l'exil. Alors dans une Keïla, il est super important de briser aujourd'hui. Et je l'ai dit, je le répète, nous travaillerons aussi dans ce sens que il y en a assez des différences qui se différencient et que ce n'est pas ta couleur de peau qui va faire qu'on va plus t'aimer ou moins t'aimer. C'est ton cœur. C'est la couleur de ton cœur. Et là, ça change tout. Parce que on peut passer sur tous les défauts corporels et tout. Mais le relationnel est dans le cœur. Et qu'il y a un moment donné, peut-être une guérison à avoir aussi pour ceux qui ont été dans ces blessures où il n'y a jamais eu vraiment de pardon. Il y a des reconnaissances historiques, des choses qui ont été dites, qui ont été reconnues dans les dom-toms, mais pas à leur juste valeur et niveau. Mais vous ne pouvez pas vivre éternellement et générer encore des générations de blessés qui vont devenir blessants, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont se révolter. Et c'est exactement ce qui se passe chez Ishmaël. Si nous ne réglons pas, nous créerons une génération de révoltés et qui vont plus pardonner et qui vont devenir encore plus durs et qui vont encore être plus cassants, plus jugeants et peut-être encore plus sectaires. Une Keïla, c'est pas ça. Une Keïla, ça doit être un lieu où il n'y a pas de couleur. Pas de couleur. C'est un lieu où on doit être dans le relationnel, dans l'amour, dans le pardon, dans la paix. On doit être unis dans le Seigneur. Je n'ai pas à être complexé parce que je suis juif. Vous savez, quand je vais des fois dans des lieux à 100% majorité chrétienne, avec des pasteurs ou des théologiens bien pensants, vous savez, je ne me sens pas obligatoirement à l'aise avec les ricanements, les provoques par des mots, par des insinuations, par des machins. Il faut rester stoïque. et leur dire que notre amour de Dieu, notre foi, notre pratique, notre relation avec la Torah est plus élevée que ces imbécilités-là. Et que nous voulons les faire mourir parce que c'est ce qui a amené les guerres de religion. Et que nous n'en voulons plus. Donc n'amenez pas des guerres spirituelles de religion là. Entre charismatique, non charismatique. T'es charismatique, et ben c'est bien. T'es pas charismatique, c'est très bien. L'essentiel, c'est que tu aimes Dieu, que tu lui obéisses, que tu marches avec Dieu. Et que ta vie soit conforme. Le reste, c'est des formes. Hein. Ça sert, voilà. C'est des concepts. L'essentiel est là. Et moi, vraiment, je vous invite à ce qu'on entre dans ce que Mashiach nous a laissé comme témoignage. C'est celui de nous aimer les uns et les autres, comme lui nous a aimés. Et à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes de véritables disciples, des ambassadeurs, et pas simplement des gens qui, voilà, qui planent, et qui ne vivent pas, et qui se séparent, et où il y a des groupes, et il y a blanc, il y a noir, il y a café au lait, il y a métisé, et il y a bronzé. Regardez, les blancs, ils veulent bronzer. Donc c'est quand même positif. Vous savez d'où ça vient? J'ai eu cette révélation-là. Abraham n'était pas un blanc. Venant de Our en Chaldée, il était basané. Alors, il est où le complexe? Réfléchissez. On n'a pas, on doit s'aimer les uns les autres. Parce qu'à ceci, tous connaîtront et sauront. Et que bien sûr, il y a des barrières parfois culturelles, de compréhension. Parfois, c'est les niveaux sociaux. Balayez tout ça quand on est là. On est dans un cœur à cœur. Et je veux conclure avec un verset qui va introduire ce qui démontrera la puissance de la prophétie, du prophétique, et qui est extraordinaire parce que c'est l'orientation de ces études qui va se faire à partir de là. On va lire dans Bamidbar, nombre 24. Bamidbar, c'est le livre des nombres. Alors, 24:16. De celui qui entend, version Zadokan, hein, le verbe divin, et connaît le secret du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui fléchit mais dont l'œil reste ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Écoutez bien, un astre s'élance de Jacob et une comète, mais il est dit un sceptre. Et une comète surgit du sein d'Israël. Qui écrasera les sommités de Moab, renversera tous les enfants de l'orgueil, tous les temps de la fin, là. Fera sa proie de l'Idumée, sa proie de Séhir, c'est Edom, le lieu de son habitation. De Séhir, ses ennemis, et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de ses ennemis, Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Jacob, qui balayera des villes, leurs derniers habitants. Et là, regardez ce qui constitue après les souvenirs, parce que c'est la descendance des âmes. Puis il vit Amalek. Et il proféra son oracle en disant Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. Il faut comprendre qu'il y a des avenirs voués à la perdition. notre génération future peut être vouée à la perdition, non à cause d'eux, mais à cause de nous. Et que parfois, nous omettons ce que Dieu dit. Ces versets sont extraordinaires. Mais il faut arrêter. Et je veux vous bénir, mais réfléchissez, priez, que le 5 décembre, dans les temps de prière, il y ait aussi. Pas seulement d'attendre que nous, en tant que parfois Européens, Juifs ou Blancs, on n'est pas toujours conscient de tout. Moi, je ne suis pas conscient de toutes les histoires, de tout. J'ai appris à découvrir certaines choses. N'attendez pas qu'on vienne nous. Venez vous aussi. Parce que des fois, nous avons été regardés comme étant ce que nous ne sommes pas. Et que, quelque part, il faut briser un peu ces tabous, ces ruptures. Parce que la relation doit être normale. Hein? Hollande veut être un président normal, mais nous, on veut être normal. Et là, vous allez voir ce que le Bereshit, le Reshit, le commencement construit. Et que là, il y aura une vraie guérison. Là, une vraie teshuva, la teshuva de la blessure d'Ishmaël. Et vous allez voir comme ça peut changer. Allez vers les Arabes, même ceux que vous avez peur, les terroristes. Et vous allez voir, ils ne vous rejettent pas. Mais ils ont une blessure, même quand ils parlent d'Israël, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et il faut restaurer quelque chose de solide aujourd'hui. Et les couples, vous l'avez entendu, les relations familiales, vous l'avez entendu, c'est la génération future qui importe. Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov. Toda. Non, c'est pas encore. C'est bientôt, Hanouka, mais c'est pas maintenant.